Chapitre 41. Olympus Mons. Après leur capture, Manmut songea qu'il aurait dû actionner l'engin, quelle que soit sa nature, dès que le dieu blond pilotant le char volant avait détruit le ballon et entrepris de les emporter vers Olympus Mons. Sauf qu'il ne pouvait plus atteindre l'engin, ni le transmetteur, ni Orphée. Il avait besoin de toutes ses forces pour rester accroché à la rambarde de la nacelle, pendant qu'il filait vers le volcan martien à une vitesse proche de Mach 1. Si l'engin, le transmetteur et Orphée n'avaient pas été solidement arrimés à la plateforme au moyen de toutes les cordes et de tous les câbles sur lesquels Manmut avait pu mettre la main, tous trois auraient chu d'une hauteur de 12 000 mètres ou davantage sur les plateaux séparant Ascraeus Mons de la mer de Tétis. Le dieu dans sa machine, qui soulevait sans effort plusieurs tonnes de poids mort, sans parler des câbles qu'il en serrait dans sa main, prit même de l'altitude tandis que le char poursuivait sa route, survolant la mer pour aborder Olympus Mons par la face nord. Manmut, dont les petites jambes se balançaient au-dessus du vide tandis que ses manipulateurs s'enfonçaient dans le bois de la rambarde, dut reconnaître que la vue était époustouflante. Une masse nuageuse presque solide recouvrait la quasi-totalité de la région, dont seuls émergeaient les sommets d'Olympus et des trois volcans de Tarsis. Au sud-est poignait un soleil minuscule mais néanmoins brillant qui bariolait nuages et océans de nuances dorées. L'éclat de la mer de Tétis était si intense que Manmut dut activer ses filtres polariseurs. Olympus, qui se dressait sur sa droite au bord de l'océan, offrait un spectacle impressionnant. Un empilement de champs glaciaires s'achevant sur une cime d'un vert impossible et une caldeira mouchetée de lacs bleus. Le char vira, et Manmut aperçut les falaises de 4000 mètres de haut au pied du cadran nord-ouest, et en dépit de l'ombre portée qui les recouvrait, il distingua aussi des routes et des bâtiments sur ce qui ressemblait à une étroite bande côtière, quoique 5 bons kilomètres de côté et séparait ces falaises des eaux dorées. Plus loin au nord et au large se trouvait Licus Sulci, dont la terraformation avait fait une île ressemblant à une tête de lézard dressée vers Olympus Mons. Manmut décrivit le paysage à Orphée via le faisceau cohérent.
Ça a l'air pittoresque, mais j'aurais préféré que nous fassions du tourisme par nos propres moyens,
commenta l'Ionien. Manmut se rappela qu'il n'était pas là pour jouer les touristes lorsque le dieu humanoïde pointa son char sur le sommet du volcan géant. 3000 mètres au-dessus de ses pentes enneigées, ils traversèrent un champ de force, les capteurs de Manmut enregistrèrent une différence de potentiel et une bouffée d'ozone, puis reprirent une trajectoire horizontale pour l'approche finale du sommet herbeux.
« Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt ce type et son char. Ça m'aurait permis d'effectuer une manœuvre d'évitement »,
déclara Manmut quelques secondes avant de couper la communication en prévision de l'atterrissage.
« Ce n'est pas ta faute », dit Orphée. « Les Deus Ex Machina ont tendance à nous prendre par surprise, nous autres littéraires. »
Après avoir atterri, le dieu qui les avait capturés agrippa Manmut par le cou et l'emporta sans autre cérémonie dans le plus vaste espace artificiel que le petit Moravec ait jamais vu. D'autres dieux de sexe masculin emportèrent Orphée, l'engin et le transmetteur. D'autres encore, toujours de sexe masculin, entrèrent dans le hall tandis que le dieu blond faisait le récit de leur capture. Manmut était désormais d'avis que ces entités croyaient être des dieux et supposaient que ce n'était pas par hasard qu'elles avaient choisi Olympus Mons comme lieu de résidence. Les hologrammes représentant plusieurs centaines de dieux et de déesses confirmaient son hypothèse. Puis le grand chef, que Manmut supposa être Zeus, prit la parole et le Moravec ne comprit pas un traître mot de ce qu'il disait. Manmut prononça une ou deux phrases en anglais. Les dieux, jeunes et vieux, grimacèrent en signe d'incompréhension. Manmut s'en voulut d'avoir négligé de charger dans ses bases de données le langage grec, ancien ou moderne. Cela lui avait semblé accessoire à l'époque où il s'était lancé dans l'exploration des océans d'Europe, aux commandes de la Dame Noire. Il essaya le français, puis l'allemand, puis le russe, puis le japonais. Il passait en revue son répertoire limité de langues humaines, répétant sans se lasser la même phrase.
« Je viens en paix et je n'avais pas l'intention d'envahir votre espace. »
Lorsque Zeus leva une main massive pour lui enjoindre de se taire. Les dieux se mirent à parler entre eux et ils n'avaient pas l'air ravis.
« Que se passe-t-il » transmit Orphée.
L'Ionien se trouvait à 5 mètres de là, posé sur le sol à côté des deux autres artefacts provenant de la nacelle. apparemment incapable de concevoir le fait que cette carcasse cabossée puisse abriter un être conscient, les déités traitaient Orphu comme un banal objet. Manmut s'y était attendu. C'est pour cela qu'il employait la première personne du singulier, « je viens en paix », plutôt que du pluriel. Quel que soit le sort que lui réservaient ces créatures, il y avait de grandes chances pour qu'elles ne touchent pas à Orphu, même si Manmut ne voyait pas comment il pourrait leur échapper, privé qu'il était dieu d'oreilles, de pattes et de manipulateurs.
« Les dieux parlent ?» répondit Manmut. « Et je ne les comprends pas. »
« Répète quelques-uns des mots qu'ils emploient. »
Manmut s'exécuta.
« C'est une variante du grec classique, » constata Orphu. « J'ai ça dans mes bases de données. Je peux les comprendre. »«
Télécharge-moi ça, »
demanda Manmut.
« Par faisceau cohérent, il me faudra une heure. Disposes-tu de ce temps-là ?»
Manmut considéra les dieux superbes et virils occupés à palabrer. Il semblait sur le point de parvenir à une décision.
« Non, »
répondit-il.
« Répète-moi ce qu'ils disent en mode subvocal. Je te le traduirai. Nous élaborerons une réponse ensemble et je te transmettrai les phonèmes nécessaires pour la formuler. »
proposa l'Ionien.
« En temps réel ? » ?»«
Avons-nous vraiment le choix ?»
Le dieu blond qui les avait capturés s'adressait au barbu sur son trône d'or. Manmut transmit leurs propos à son ami, obtint leur traduction en une fraction de seconde, élabora une réponse avec l'aide d'Orphu et mémorisa sa traduction en grec. Cette procédure lui paraissait bien lourde.
« N'est qu'un petit automate astucieux, et les autres objets n'ont aucune valeur, Seigneur Zeus !»
déclara le dieu blond qui mesurait bien 2,50 m.
« Apollon, seigneur à l'arc d'argent, attends pour juger de la valeur de ces jouets que nous sachions d'où ils viennent et ce qu'ils font ici. Le ballon que tu as détruit n'était pas un jouet. »
« Je ne suis pas non plus un jouet, » déclara Manmut. « Je viens en paix et je n'avais pas l'intention d'envahir votre espace. »
Les dieux sursautèrent à l'unisson et échangèrent des murmures.
« Ces dieux sont-ils grands, au fait ?»
demanda Orphu. Manmut les lui décrivit en hâte.
« Impossible, » décréta l'Ionien. « La structure du squelette humain ne peut accommoder un individu de plus de 2 mètres, et une taille de 3 mètres révèle de l'absurde. » « Tibia et Péroné ne pourraient que céder. »«
Nous sommes sur Mars, » lui rappela Manmut. « Ce champ gravifique est le plus élevé que j'ai jamais connu, mais il ne correspond qu'à un tiers de la pesanteur terrestre. »«
Tu penses donc que ces dieux viennent de la Terre ? Cela semble fort improbable. À moins que... »«
Excuse-moi, » transmit Manmut, « je commence à être pas mal occupé. »
Zeus gloussa et se pencha sur son trône.
« Ainsi donc... » « Cette petite personne jouet parle le langage humain. »
« En effet, » répliqua Manmut.
Il répétait soigneusement ce que lui dictait Orphu, bien que ni l'un ni l'autre n'ait su comment il convenait de s'adresser au dieu de tous les dieux, au roi des dieux, au seigneur de l'univers. Ils avaient donc décidé de se dispenser de termes honorifiques.
« Les guérisseurs le parlent eux aussi, » dit sèchement Apollon. « Mais ils ne pensent pas. »
« Je parle et je pense, » dit Manmut.
« Vraiment ?» fit Zeus. « La petite personne parlante et pensante, a-t-elle un nom ?»«
Je suis Manmut le Moravec, nautonnier sur les océans gelés d'Europe. »
Zeus eut un nouveau gloussement dont les basses firent vibrer la carapace de Manmut.
« Vraiment ? Qui est ton père, Manmut le Moravec ?»
Manmut et Orphu mirent 2 bonnes secondes à élaborer une réponse honnête.
« Je n'ai pas de père, Zeus. »«
Tu es donc un jouet !»
décréta Zeus. Lorsqu'il plissait le front, ses gros sourcils blancs lui frôlaient le nez.
« Je ne suis pas un jouet !» rétorqua Manmut. « Seulement une personne d'une forme différente. Tout comme mon ami ici présent, Orphu d'Io, un Moravec de l'espace travaillant dans le Thor d'Io. »
Il désigna la carapace de son ami et tous les yeux divins se posèrent sur elle. C'était à l'insistance d'Orphu qu'il révélait ainsi sa véritable nature. Il affirmait vouloir partager le destin de Manmut, quel qu'il soit.
« Encore une petite personne, mais qui a la forme d'un crabe fracassé ?»
dit Zeus qui avait cessé de glousser.
« Oui, » fit Manmut. « Puis-je connaître les noms de ceux qui nous ont capturés ?»
Zeus hésita. Apollon protesta, mais le roi des dieux finit par s'incliner d'un air ironique et désigna les dieux l'un après l'autre.
« Le dieu qui vous a conduit ici est Apollon, mon fils. Près de lui se tient Arès, celui dont la voix résonnait le plus fort avant que tu te joignes à notre conversation. La sombre silhouette à ses côtés est celle de mon frère, Hadès, fils de Cronos et de Rhea tout comme moi. À ma droite, Héphaïstos, le fils de mon épouse. Le dieu qui se tient près de ton ami le crabe est mon frère, Poséidon, appelé ici en l'honneur de votre arrivée. Près de lui, porteur de son collier d'algues dorées, se trouve Néréis, autre habitant des mers. Derrière le noble Néréis se tient Hermès, guide et tueur de géants. Il y a maints autres dieux, et aussi des déesses, je vois, présents dans le grand hall, mais ces sept-là et moi-même seront vos juges.
Nos juges? Mon ami Orfudio et moi-même n'avons commis aucun crime contre vous.
Bien au contraire, dit Zeus en riant.
Sans prévenir, il passa à l'anglais.
Vous venez de l'espace jupitérien, petit Moravec, petit robot, sans nul doute animé d'intentions hostiles. C'est ma fille Athénée et moi-même qui avons abattu votre vaisseau, et je confesse que je vous croyais tous détruits. Les abominations que vous êtes sont des plus tenaces. Mais ce jour est le dernier que vous connaîtrez.
« Tu parles le langage de cette créature ?» demanda Arès à Zeus. « Tu connais cette langue barbare ?»«
Ton père parle quantité de langage, dieu de la guerre, » répliqua sèchement Zeus.
« Silence !»
Le gigantesque hall et ses nombreuses mezzanines s'emplissaient de dieux et de déesses.
« Que cette chienne de machine et ce crabe sans pattes soient conduits dans une pièce scellée !» ordonna Zeus. « Je vais m'entretenir avec Héré, les autres dieux de bon conseil, et nous déciderons promptement de leur sort. Emportez les deux autres objets dans la salle des trésors. Nous estimerons leur valeur en temps voulu. »
Apollon et Néréis s'approchèrent de Manmut. Le petit Moravec envisagea brièvement de se défendre ou de s'enfuir, le laser de faible voltage intégré à son poignet pouvait prendre les dieux par surprise, et il courait suffisamment vite pour s'échapper de ce hall et plonger dans le lac de la Caldeira aux profondeurs accueillantes. Puis il vit qu'Orfu était emporté par quatre dieux non identifiés, et il se laissa manutentionner lui aussi telle une poupée de métal. D'après son horloge interne, ils patientèrent 36 minutes dans une pièce dépourvue de fenêtres jusqu'à ce que leur bourreau fasse son apparition. Il s'agissait d'un espace relativement vaste, délimité par des murs en marbre d'une épaisseur de 2 mètres et, à en croire ses instruments, enchâssé dans des champs de force capables de résister à une explosion nucléaire de faible puissance.
« Il est temps d'activer l'engin, » transmit Orfu. « J'ignore ce qu'il peut bien faire, mais je ne me laisserai pas détruire sans résister. »
Je l'activerais sans hésiter si j'en étais capable, répondit Manmut. Mais la télécommande n'était pas fournie, et j'étais trop occupé à fabriquer une nacelle pour en bricoler une.
Encore une occasion de perdu, gronda Orfu. Et puis zut, nous avons fait de notre mieux.
Je n'ai pas encore renoncé,
rétorqua Manmut. Il se mit à faire les 100 pas, puis palpa la porte métallique. Elle aussi était scellée par des champs de force. Si Orfu avait encore eu ses bras, peut-être aurait-il pu l'arracher de ses gonds.
Peut-être.
Que dit Shakespeare à propos des choses qui finissent comme cela? Demanda Orfu. Will le poète a-t-il jamais fait ses adieux aux jeunes?
Pas vraiment,
dit Manmut en palpant les murs avec ses doigts organiques.
Ils se sont même quittés fâchés. Leur relation a tourné en eau de boudin quand ils se sont aperçus qu'ils couchaient avec la même femme.
« S'agit-il d'un jeu de mots ?»
demanda Orfu d'un air sévère. Manmut se figea sous l'effet de la surprise.
« Pardon ?»«
Non, rien. »«
Et Proust, qu'a-t-il à dire à ce propos ?»
demanda Manmut.
« Longtemps, je me suis couché de bonne humeur, »
récita Orfu d'Io. Manmut détestait le français, c'était comme si on lui graissait les rouages avec de l'huile trop onctueuse. Mais il n'eut aucune peine à traduire cette phrase. Au bout de 2 minutes 29 secondes, il répliqua sur le faisceau cohérent.
le reste est silence. »
La porte s'ouvrit, et une déesse de 2 mètres entra, la referma et la scella. Elle tenait dans ses 2 mains un ovoïde argenté pourvu de 2 petits porcs noirs braqués sur les moravecs. Manmut sut instinctivement qu'il ne servirait à rien de lui sauter dessus. Il recula jusqu'à pouvoir toucher la carapace d'Orphu, tout en sachant cependant que son ami ne pouvait sentir ce contact. La déesse déclara en anglais
« Je suis erré et je suis venu mettre un terme à vos souffrances une bonne fois pour toutes, stupide Moravec que vous êtes. J'ai toujours détesté les créatures de votre espèce. »
Il y eut un éclair, une décharge d'énergie, puis les ténèbres absolues.